m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui, avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et oui, vous êtes sur Radio Courtoisie. Bienvenue dans Restons Courtois, notre émission de débat, où nous allons débattre justement ce soir de Bernanos. Alors un débat un peu particulier. Je suis d'accord avec tout le monde dans la première heure, avec personne dans la seconde. Voilà, mais dans la première heure, concentrons-nous justement sur celle-ci. J'ai le plaisir de recevoir Mathieu Boccoté, bonjour.
Bonsoir.
Et Laurent Dandrieux, bonsoir. Voilà, pour le pessimiste joyeux, un livre d'entretien que j'ai soigneusement annoté pour prouver que je l'ai lu, qu'il vient de faire paraître chez Fayard, et qui est une espèce de voyage dans la tête, dans les tripes, dans le cœur de Mathieu Boccoté, qui nous raconte comment il est devenu lui-même et comment donc il a réussi à apporter au monde intellectuel et un personnage chestertonien vivant, tout à fait agréable. Voilà, vous êtes solide, vous êtes bon vivant, vous êtes un véritable intellectuel, vous portez des lunettes comme Chesterton, vous écrivez des livres comme lui et vous êtes comme lui... je ne peux pas dire réactionnaire, je ne peux pas dire conservateur. En tout cas, vous êtes comme lui, justement, un pessimiste joyeux. C'est-à-dire, vous avez le sentiment qu'on ne va pas forcément dans la bonne direction, mais vous avez décidé qu'il était absolument inutile de ne pas combattre.
Oui, en fait, chez Chesterton, je crois que c'est dans Le Monde comme il ne va pas, il y a cette formule, il dit « c'est une grâce que d'exister ». Et ça, je pense que c'est le point de départ, c'est-à-dire même si nous habitons une époque d'effondrement généralisé, de déliquescence, ça ne veut pas dire premièrement que l'existence se résume à nos combats perdus, et ça ne veut pas dire par ailleurs qu'il ne vaut pas la peine de combattre. Et de ce point de vue, on ne sait jamais exactement quel sera le résultat du combat, le résultat de la bataille, ça peut donner des résultats immédiatement d'une génération, dans deux générations, mais quoi qu'il en soit... l'existence humaine, c'est la possible forme, c'est la conjugaison du combat et du banquet. À tout le moins, c'est ainsi que je conçois le bonheur.
Voilà, la conjugaison du combat et du banquet. On reviendra sur le banquet. Laurent Dandrieux, donc vous rencontrez Mathieu Boccoté d'abord par quelques échanges et puis vous finissez par aller au Canada, dévoré
au
par
Québec.
L'envie de, au Québec, dévoré par l'envie de le rencontrer, ou vous aviez deux ou trois autres choses à faire?
Il se trouve que non, j'avais un autre prétexte et que on ne se connaissait pas. On avait échangé. Mathieu avait eu la gentillesse de m'envoyer quelques mails laudatifs sur mes livres et donc. Il se trouve que j'avais ce voyage programmé à Montréal quelques mois plus tard, donc je me suis dit, je lui ai dit voyons-nous volontiers, en ne sachant absolument pas à quel genre de personnage j'avais affaire, et l'excellente surprise a fait que nous avons sympathisé immédiatement, et c'est devenu immédiatement une amitié.
Alors, sympathiser immédiatement, on a l'impression, Mathieu Boccoté, que c'est l'un de vos talents, parce que vous nous dites je rencontre Alexandre Devecchio, ce type est génial, je rencontre Geoffroy Lejeune, ce type est d'un courage incroyable et c'est devenu un ami, je rencontre Jenny Bastier, cette fille est géniale et c'est devenu une amie, enfin vous n'avez que des amis.
Ah non, j'ai beaucoup d'ennemis, mais je parle pas de chacun d'entre eux. Mais non, je pense qu'il existe une telle chose, ça l'a dit, que le don de l'amitié, ça je crois que ça existe, c'est une espèce de mélange d'esprit de camaraderie. Bon, ça, je reviens à ce que je disais, c'est le plaisir de combattre ensemble, le plaisir de banqueter ensemble, le plaisir de parler ensemble, le plaisir de prendre le verre de pluie ensemble. Donc ça, je pense qu'il y a des gens qui ont une prédisposition à l'amitié, comme d'autres une prédisposition aux amours complexes, comme d'autres une prédisposition à la solitude. Je suis plutôt heureux d'être du parti de l'amitié.
Alors, vous dites d'ailleurs qu'il existe une telle chose que l'amitié à la française, et vous répondez à une question de Laurent Dandrieux, il y a en France une manière d'habiter l'expérience humaine que je trouve tout à fait singulière, mais vous n'aviez pas développé. En quoi consiste cette singularité? Et votre réponse, c'est de parler de l'amitié à la française. Qu'est-ce que c'est l'amitié à la française?
Alors, je vais vous donner par effet de contraste avec l'Amérique du Nord. C'est dans l'Amérique du Nord, le lien se crée immédiatement. Il n'y a rien de plus facile que de créer un lien. Hey, buddy, man, hey, yo! C'est formidable. On est immédiatement très, très proche. Et on se croit, donc finalement, on est amis. Et on se recroiserait le lendemain, mais qui êtes-vous exactement? Et donc, premier élément, ce sont des relations qui se nouent immédiatement, mais qui se dissolvent aussitôt. Deuxième élément, en Amérique du Nord, qui me frappe, ensuite, il n'y a pas que ça, mais globalement, la tendance lourde, il y a aussi, ça m'avait frappé en France, quand les gens disent, bon, tu viendras faire un tour à la maison. Ça veut certainement pas dire qu'il faut venir faire retour à la maison. C'est une formule de politesse. Donc les premières fois où en France on me dit tu viendras faire retour à la maison, c'est une formule de politesse, et je me rends compte que finalement je suis très insultant vers les gens puisque j'accepte jamais leurs invitations parce que je ne les prends pas au sérieux. Et là je découvre donc avec le temps, mais c'est avec un vrai plaisir, que si la relation d'amitié prend plus de temps à se nouer ici, elle est beaucoup plus dense ensuite. Ça m'avait frappé en fait. Donc c'est des relations qui prennent une épaisseur. Alors je dis pas que c'est impossible en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, mais le fait est que ça me semble plus fréquent et plus riche en France que de mon côté de l'Atlantique.
Laurent Dandrieux, c'est exactement ce que vous avez ressenti au fil des années avec Mathieu Bock-Côté ?
Oui, enfin même avant de le rencontrer, puisque je ne le connaissais pas encore, qu'il m'a dit « mais je crois que vous allez avant à Québec, et donc j'ai un excellent ami à Québec, et qui va se faire un plaisir de vous inviter chez lui, de vous faire visiter la région ». Donc quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'avait été présenté par quelqu'un que je ne connaissais pas non plus. Et puis, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois avec Mathieu à Montréal, ça a pris immédiatement la forme d'un banquet, effectivement, où il avait convié quelques amis. Et donc, effectivement, ce goût du banquet n'est pas du tout une théorie chez Mathieu, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement vivant et effectif.
Banqueté, vous en parlez, et même, je crois que le livre se termine. D'ailleurs, allons manger, j'ai faim.
Voilà. Je crois que ça décrit quand même l'activité principale qui nous a accompagnés pendant ce livre. Ça, je pense que, sauf une fois, et même là, j'en suis pas certain, chacune de nos séances, c'était saucisson, fromage, vin et autres plaisirs semblables. Donc ça, je crois, on avait un certain talent, cela dit, pour, on peut se poser une question de plus, on fait une heure de plus parce qu'on a une bouteille de plus. Donc c'était, je pense que les plaisirs de la table ont accompagné ce bouquin.
Et alors, parfois un peu troublé nos propos, mais on a réussi à corriger.
Oui, c'est très juste que d'une conversation à l'autre, quelquefois on dit « Ah, là, c'est un peu plus d'alcool, là, un peu moins, là, un peu plus ». Donc il a fallu équilibrer à la fin.
Laurent m'a raconté, donc, pendant qu'il était en train de décrypter les bandes, qu'effectivement, de temps en temps, on sentait que dans l'exaltation du moment, dans la chaleur du banquet, les idées s'étaient envolées très vite, les mots avaient un peu de mal à suivre. Enfin,
non, les mots étaient là, mais c'était plus exalté, c'était plus emporté.
Quand vous parlez comme ça du banquet, du combat, du malheur du monde, vous l'avez évoqué au début, voilà, effectivement quand on regarde le spectacle de la France, du Québec, peut-être même de l'Iran, sait-on jamais, il paraît que les gens là-bas sont malheureux en ce moment, on n'a pas forcément envie de jubiler, mais comme le dit Laurent Dandrieux, les retranscriptions qui suivent ne peuvent donner qu'un aperçu imparfait. Il faudrait pouvoir rendre par écrit non seulement l'accent de Mathieu, mais aussi son rire énorme et enfantin, la jubilation qui traverse ses années les plus pessimistes, ses talents de comédien, sa drôlerie irrésistible qu'en prenant un ton d'enthousiasme bourru, il imite son père, ou qu'en déballant un fromage avec un air ému, soudain, il s'exclame « Comment peut-on être malheureux ?»
Ah bah absolument, parlons fromage, c'est certain. Mais mais cela dit, je suis d'accord. Heureusement, l'existence ne s'épuise pas dans une théorie. C'est-à-dire, point de départ, l'Empire romain est tombé. Donc tout tombera. Donc même nos pays, même nos patries, tout ce à quoi nous tenons finira par tomber d'une manière ou de l'autre. Rien sur Terre n'est éternel, ni même immortel, mais on peut chercher à immortaliser les choses. Mais une fois que c'est dit, ça, c'est une manière, en fait, de laisser une trace dans l'existence. Une fois que c'est dit, l'existence, heureusement, ne s'épuise pas dans une théorie. Et c'est à ce moment que je dirais que. En fait, j'y reviens parce que c'est presque la trame de fond. Le banquet commence à ce moment. C'est-à-dire, c'est cette idée qu'on traverse tout ça avec un certain panache, mais aussi avec le plaisir de l'abondance. Et j'ajouterais la vie qui déborde. C'est probablement des trucs qui m'énervent le plus dans la triste époque qui est la nôtre. Cette espèce de néo-puritanisme, cette idée qu'on va, prendre ensemble, osons le Perrier. Et même un deuxième, ceux-là sont particulièrement pétillants, ces bulles. Bon, ça, c'est formidable. Donc, il y a quelque chose là-dedans, dans cette espèce de sécheresse revendiquée, et, qui est absolument déprimant, et je pense qu'on peut traverser l'existence autrement, mais pour cela faut-il encore avoir de bons amis, et j'ai la chance d'en avoir, et notamment ici.
Alors pour paraphraser Richard de Sèze, la joie de vivre est de droite.
Oui, bah, pour une raison simple, je pense que les gens de gauche, dans leur esprit, se disent qu'ils ne seront heureux que lorsque la société sera parfaite. Mauvais départ. Donc ils se disent quand tout ira bien, je serai délivré du sentiment du fardeau de l'injustice qui m'écrase. Je pense que commencer ainsi, c'est se promettre d'infinis malheurs en ce monde sans même atteindre la société parfaite théoriquement construite à la fin.
C'est la différence entre la théorie, l'idéologie et l'incarnation.
Oui, je suis absolument d'accord. C'est fondamentalement, celui qui n'habite le monde qu'à condition de voir ce réaliser sur Terre la promesse d'un monde délivré, celui-là n'habite pas le monde.
Et vous dites d'ailleurs voilà, que le conservateur ne réclame pas une société parfaite, il réclame juste de vivre dans une société à peu près apaisée, une vie à peu près digne.
Oui, exactement. Une société décente, apaisée, digne, tout en sachant...
Mais vous dites à peu près, donc vraiment, on vous sent modeste dans vos ambitions.
Non, mais j'espère bien. Nous refont longtemps, si on réussit en France ou au Québec à avoir une société à peu près apaisée, à peu près intégrée culturellement, à peu près libérée fiscalement, à peu près indépendante par rapport à l'Europe ou au Canada, ça sera déjà formidable.
Laurent Dandrieux, quand vous interrogez des heures durant Mathieu Bock-Côté, il y met la même vivacité
Mais oui, c'est formidable, il est comme ça du matin jusqu'au soir.
Ça s'arrête jamais.
Et alors, parfois on a l'impression que c'est un peu fatigant, mais en fait c'est formidable, parce que c'est ce que je dis aussi dans ma préface, c'est que c'est non seulement un excellent camarade, c'est non seulement le contraire de l'intellectuel tel qu'on l'imagine en France, c'est-à-dire rat de bibliothèque totalement desséché, pour qui la vie n'est qu'une note en bas de page d'un traité poussiéreux, mais c'est aussi à cause de cette énergie qui l'habite du matin jusqu'au soir, c'est un formidable professeur d'énergie, et pour moi qui ai un peu tendance parfois à la déploration, hein, voulons-le, c'est formidable de côtoyer quelqu'un comme Mathieu, parce que c'est comme si on vous remontait une clé dans le dos à chaque fois qu'on lui parle, c'est formidable.
En fait, c'est une synthèse entre les Français de France et les Canadiens français.
Oui, mais c'est vrai que y a quelque chose là, je pense, aussi de spécifiquement... peut-être québécois qu'il apporte à la vie intellectuelle française, c'est que en France, même les intellectuels de droite peuvent être parfois assez désincarnés et très abstraits. Et Dieu sait que Mathieu aime bien les concepts et aime bien les enfiler, mais en même temps, il n'y a rien d'abstrait chez lui. C'est quelqu'un de totalement incarné, de totalement vivant, de totalement bon vivant. Et je pense que c'est aussi l'une des clés de son succès en France, parce qu'il tranche par cela avec l'image qu'on a de l'intellectuel un peu rasoir, pour tout dire.
Mais ce que dit Laurent est très juste, c'est-à-dire que, non à mon sujet, mais à propos de l'intellectuel de droite en France, je pense que trop souvent, ils se vivent comme les contemporains des derniers jours. C'est-à-dire, ils ont l'impression, regardez ce champ de ruines, regardez ce monde, Dieu n'est plus là, la grandeur n'est plus là, la patrie n'est plus là, tout est desséché, tout est mort. Que feront on lira de vieux grimoires. Bon, je dis pas que c'est inintéressant de lire de vieux grimoires, j'en ai même beaucoup, mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne manière, encore une fois, de se lancer dans les quelques décennies qui nous sont offertes.
Alors qu'à défaut de lire des vieux grimoires, on peut lire Mathieu Bock-Côté, Entretien avec Laurent Durel, un nouveau grimoire, le pessimiste joyeux. Dans cette joie qui vous anime, on sent aussi malgré tout que le Québec n'est pas un vieux pays d'une certaine manière. Alors, la région existe longtemps avant que les Français n'y mettent le pied, mais il y a aussi une espèce de renaissance québécoise au mi-temps des années 60, ouais, en fait.
Ça, c'est fondamental. Si je résume rapidement, d'un coup, 1534-1608, les deux moments potentiels de la Fondation, soit la découverte du Canada, comme on dit, par Cartier, soit la Fondation de Québec par Champlain. L'histoire de la Nouvelle-France, la vraie, pas celle dont on parle ces jours-ci, l'histoire de la Nouvelle-France va jusqu'à 1763 pour l'essentiel, donc le traité de Paris, et dès lors, c'est la perte de la Nouvelle-France, la perte de la souveraineté française en Amérique, reste quelque part dans la vallée du Saint-Laurent, 60 000 Français installés là, leurs élites, dans la mesure où ils en avaient, sont repartis pour la France, donc on a un peuple de 60 000 globalement, paysans, petits artisans, qui sont pris là, un peu abandonnés, et normalement, ils devraient être balayés. L'histoire voudrait qu'on en finisse avec eux. L'Empire britannique, d'ailleurs, il travaillera ardemment pour en finir avec, ça va vous plaire.
Déportations, massacres...
Ça, c'est les Acadiens en 1755 avec les grands dérangements. Donc, les Britanniques font tout pour qu'on disparaisse et ils n'y parviennent pas. Donc, la posture existentielle première de ceux qu'on appelle alors les Canadiens, ensuite les Canadiens français, ensuite les Québécois, c'est survivre. Donc, le langage politique, pour nous, c'est pas celui de la puissance, c'est celui de la conservation et de la survie. 1837-38, soulèvement, armée, pour la République du Bas-Canada, faire l'indépendance. Les Anglais nous massacrent encore une fois, c'est dans leur habitude. Et là, ensuite, il y a ce qu'on voit, une période qui va s'appeler la survivance. Donc, 1840 à 1960, les Canadiens français, qui deviendront ensuite Québécois, se disent « il faut simplement tenir, et un jour on verra ». Et à partir des années 60, il y a un moment de renaissance nationale, mais un moment paradoxal. Donc la société se détraditionnalise, se déconstruit dans ses valeurs dites traditionnelles, mais au même moment comme on a une vraie renaissance nationale, un désir d'indépendance, un désir d'affirmation linguistique, un désir d'affirmation culturelle, comme si on synthétisait en quelque sorte la Révolution irlandaise et mai 68. Je dis pas que ça va bien ensemble normalement, mais c'est à peu près ce qu'on a fait au Québec Québec dans les années 60. Le problème ensuite, c'est que ça a échoué. L'indépendance a échoué à deux reprises, en 80 et en 95. Elle va réussir la prochaine fois. Mais entre-temps, le double échec de l'indépendance nous a quand même brisé les reins.
Ça vous a brisé les reins, mais voilà, vous avez montré que c'était possible. Nationalisation de l'industrie électrique, différentes lois, imposition du français. Donc, même si, évidemment, grâce aux progressistes, le français recule. Voilà, vous en donnez quelques exemples. Bonjour, hi, qui, évidemment, est devenu hi assez rapidement.
Ben, en fait, bonjour, hi, c'est qu'à partir du début des années 2000, je m'en souviens. À Montréal, j'arrive. Bon, moi, je venais de la rive nord de Montréal, puis je vais de plus en plus souvent à Montréal pour les études. Et là, j'entends dans les commerces « Bonjour, aïe ». Je commence à dire « Bonjour, aïe ».« Bonjour, suffira ». Et là, « Bonjour, aïe », parce que les deux langues sont offertes. Donc là, finalement, le français est optionnel. Donc « aïe » tout court arrive. Donc on est passé de « Bonjour, aïe » à « aïe, bonjour » à « aïe » tout court. Et ça, on le voit de plus en plus, ce qui fait que quand on rentre dans un commerce aujourd'hui, dans plusieurs quartiers de Montréal, le « bonjour » peut être un geste politique. Donc on rentre dans le commerce, puis avant même que l'autre nous parle, on dit « Bonjour !» pour que le message soit clair. Ça va se passer en français. Et l'autre, et si on nous répond en anglais, là, il faut tenir. Alors, certains ont le réflexe de quitter le commerce en disant « Je ne vais pas dans un commerce où on me sert pas en français. » Mais moi, je suis de l'autre école. Je considère que la langue française va être la norme, j'allais dire autre chose, dans ce commerce, et je ne tolère pas d'être traité comme un étranger, comme un vaincu dans mon propre pays.
Et donc, et vous réclamez vos gaufrettes et votre sirop d'érable en français jusqu'à ce que de Guerlas vous finissiez par être servi.
Demander du sirop d'érable en anglais, ça serait vraiment le point final de l'avachissement.
Je ne voudrais pas être à la place du commerçant qui accueille Mathieu Bocoté d'un aïe.
Il y a une période assez particulière que vous racontez justement dans cette histoire, ce moment de renaissance et qui après amène à, pour l'instant, donc l'échec de l'indépendance, c'est cette espèce de souverainisme, mais qui est progressiste, en fait. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que c'est assez particulier.
Il y a deux temps du souverainisme progressiste. Dans les années 60, on peut le comprendre, c'est-à-dire les Canadiens français qui deviennent Québécois sont véritablement, pour reprendre la formule de Félix Leclerc, porteurs d'eau, scieurs de bois, locataires et chômeurs en son propre pays. Donc dès lors, on croit en l'État, la formule de René Lévesque à l'époque, c'est l'État, c'est notre seul millionnaire. Donc c'est avec lui qu'on va être capable de développer. Donc il va avoir une forme de prédisposition technocratique dans la Révolution tranquille, mais la société demeure culturellement conservatrice aussi à plusieurs égards. Le deuxième temps du progressisme obligatoire au Québec, c'est après 1995. Et après 1995, puisque, pour différentes raisons, le discours identitaire est laissé de côté. Donc, on ne peut plus... Jacques Parizeau, au moment de la défaite, qui est le premier ministre du Québec, dit, bon, faut comprendre, le résultat de 95 est crève-cœur. 94% de taux de participation non obligatoire, 61% des francophones, qui représentent 82% de la population, votent oui, 99% des Anglais votent non, c'est normal, et 90 à 95% des populations issues d'immigration votent non. Résultat, 49,4% pour le oui, 50,6% pour le non. Jacques Parizeau, qui est le premier ministre du Québec à ce moment-là, le chef du camp du oui, dit dans un discours crève-cœur, c'est vrai qu'on a été battu, mais dans le fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Et puis ensuite, il va dire, voulez-vous avoir arrêté de parler les trois cinquièmes de ce que nous sommes à voter pour? Pour avoir dit ça, les souverainistes ont sacrifié la dimension identitaire qui était assimilée au racisme et à la xénophobie pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et pour remplir le vide identitaire, on l'a rempli par une forme de progressisme qui devenait la matière de l'identité québécoise. On en est peu à peu sorti ces dernières années, mais on en a payé le prix.
Il y a un retour de balancier, vous le constatez?
Oui, oui, mais je pense qu'on a redécouvert les dimensions plus fondamentales de l'identité. Le fait d'être une majorité démographique chez soi, la dimension, le rapport à la langue, le rapport à la culture, la critique des délires woke. Et là, on redécouvre le fait qu'un peuple n'est pas qu'une langue de communication portée par une administration et déterminée.
Est-ce que vous trouvez, Laurent, qu'on voit un peu la même chose en France, cette espèce de retour?
Je ne sais pas. Je ne me hasarderai pas à le pronostiquer.
Je crois que le pessimiste joyeux, c'est celui qui...
Lui, c'est le pessimiste pas joyeux.
Non, il y a effectivement... Il y a une prise de conscience dans une partie de la population de l'importance des questions identitaires et de l'importance de savoir d'où on est et d'où on vient et qui on est. Mais il y a aussi, en face de cela, une crispation dans le pays légal, je dirais, vis-à-vis de ces questions identitaires, qui est d'autant plus violente et qui assimile aujourd'hui toute réflexion identitaire à une forme de pré-nazisme. Donc il y a les deux. Il y a effectivement un retour de bâton dans une partie de la population et il y a un blocage et une hostilité de plus en plus forte dans les pseudo-élites.
Alors, Mathieu Bocoté, justement, à une question que vous pose Laurent Dandrieu, comme quoi il y a un risque de faire apparaître le conservatisme comme un traditionnalisme, ce qui n'est pas politiquement le plus vendeur, comme vous le soulignez. Vous nous répondez avec cette espèce de révolution québécoise surprenante où on a à la fois du souverainisme mai 68 et de la révolution irlandaise réussie, et vous ajoutez ce que vous nommez traditionnalisme. Je dirais que c'est un nationalisme dans le bon sens du terme, un national-conservatisme. Avant le bien commun, il y a le commun. Ce qu'on doit restaurer aujourd'hui, ce sont les conditions mêmes du commun, c'est-à-dire les mœurs, la mémoire plus encore. La question de l'identité est première. Cette question de l'identité, c'est vraiment ce qui travaille à plein, aussi bien les Québécois dans leur manière de se réapproprier, comme on dirait, leur identité, que évidemment la France, où la question de l'identité est à la fois un totem, une terre promise, un repoussoir absolu.
Oui, enfin, je pense qu'une donnée fondamentale ici, c'est l'importance d'être une majorité démographique chez soi. Je pense que la question première, une identité déconstruite peut se reconstruire, des mœurs peuvent se reconstruire, une mémoire, on peut se la réapproprier, des impôts, on peut les baisser, une dette, on peut la rembourser, la souveraineté confisquée par l'Union européenne, on peut la regagner, et même l'indépendance du Québec, théoriquement, on pourrait l'avoir ça, avec une absence de peuple, théoriquement, il y a une redéfinition des pouvoirs provinciaux qui serait toujours possible. Mais si on devient minoritaire chez soi, on devient étranger chez soi, et ça pour moi c'est l'élément central, quand vous êtes majoritaire chez soi, vous avez le pouvoir. Si vous êtes minoritaire chez vous, vous avez au mieux des droits. Donc vous négociez des droits avec une souveraineté extérieure qui vous les accorde ou non, qui vous les retire ou non. Et ce que je note dans l'époque qui est la nôtre, et ça on le voit beaucoup au Québec, mais je pense que vous allez le vivre en France d'une manière un peu différente, une partie des discours décoloniaux qui nous viennent de l'extérieur nous disent globalement, ben, on vient d'arriver au Québec, on n'a pas à s'intégrer aux francophones, vous n'êtes pas intégré aux Amérindiens auparavant. Donc vous êtes en fait les premiers colons ici, vous êtes illégitimes, vous n'êtes pas vraiment dans votre pays, pour qui vous prenez-vous? Et nous, on préfère nous intégrer au Canada multiculturel, diversitaire, bilingue. Et d'ailleurs, pourquoi la langue française a-t-elle des privilèges au Canada? Il y a l'anglais qui est la langue de référence, le français n'est-ce pas une langue qui a des privilèges exagérés dans ce pays? Ou alors, pourquoi ne pas accorder les mêmes privilèges au Punjabi, aux différentes langues qui existent, qui sont venues par l'immigration? Donc quand vous perdez la majorité au sein d'une communauté politique qui dispose d'une vraie souveraineté, vous perdez tout le reste. Tant que vous êtes là, tant que vous tenez, vous êtes capable de vous reconstruire, vous pouvez traverser un siècle de survivance et vous pouvez renaître. Le jour où vous n'êtes plus qu'une minorité, vous serez à la rigueur une forme de résidu folklorique touchant, mais ça n'intéresse personne.
C'est plus pessimiste que joyeux.
Ah oui, d'accord, j'ai dit qu'on va gagner. Donc le Québec va devenir indépendant autour de 2030, peut-être un peu avant, et là, c'est ce moment de rédemption collective arrive à ce moment-là.
Alors, dans ce que vous décrivez, on se dit, mais voilà, effectivement, c'est le but, c'est le chemin, c'est la voie, et il y a un obstacle qui est que Laurent Dandrieu repère dans le totalitarisme sans le goulag, l'un de vos ouvrages. Dès lors qu'il y a un paradis à construire, il y a un diable qui veut le ruiner. Et on sent bien, effectivement, que chaque fois que quelqu'un dessine un chemin de pouvoir tranquille, de société apaisée et de dignité sans excès, il y a quelqu'un qui débarque et qui explique « Non, mais pas du tout, enfin, vous pensez mal et ce qui vous paraît être des biens communs désirables, sans excès d'orgueil, au contraire, ce sont les péchés les plus abominables. »
Oui, mais parce qu'on a institutionnalisé la déconstruction. Ça, faut voir aujourd'hui ce qui est devenu l'espèce de complexe médiatico-universitaire qui finançait même l'argent public, bien évidemment, qui travaille à temps plein à déconstruire les fondements même du commun, justement. Donc moi, j'ai pas de problème parce que dans une société, il y a une proportion significative de marginaux qui n'aiment rien, qui veulent tout piétiner, qui n'aiment pas les valeurs, qui n'aiment pas la tradition, qui n'aiment pas la mémoire. C'est normal. Dans toute société, il y en a. Ce qui m'embête, c'est lorsqu'on décide d'en faire la norme, lorsqu'on décide d'institutionnaliser le rejet de la société. Ça me semble beaucoup plus audacieux comme idée.
Laurent Dandrieu, quand vous commencez à évoquer avec Mathieu Bocoté ce livre d'entretien, tout de suite vous vous dites c'est génial, on va raconter l'enfance, on va raconter la cabane à sucre, on va raconter la bibliothèque du père, ou au contraire vous dites non, pas du tout, on va faire une histoire intellectuelle, on va dresser le portrait psychologique de Mathieu Bocoté. Vous aviez un vaste projet
de... En fait, le point de départ, je crois, pour moi, c'est notre commune admiration à Mathieu et à moi pour Raymond Aron. Et moi, j'ai été très marqué quand j'étais adolescent par la parution en 84, je crois, d'un livre d'entretien de Raymond Aron qui s'appelle Le spectateur engagé. Et je crois qu'inconsciemment, j'ai toujours voulu faire faire un livre comme ça avec un intellectuel que j'admire. Et puis, je me suis dit, finalement, c'est quand même mieux de le faire avec quelqu'un, non seulement qu'on admire, mais avec qui on est capable de partager des bonnes bouteilles. Donc, le choix de Mathieu, de ce point de vue-là, a été assez évident. Et ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement, bien sûr, le parcours intellectuel, qui est le livre de Daron abordait aussi des aspects familiaux et des aspects intimes, mais j'ai trouvé qu'ils étaient d'autant plus intéressants dans le cas de Mathieu, qu'il a débarqué un peu dans le paysage intellectuel français il y a 5 ans, un peu comme un ovni. Les gens de CNews, les spectateurs de CNews et les lecteurs du Figaro notamment, ou de Valeurs Actuelles, l'ont découvert un peu du jour au lendemain, mais sans trop savoir qui était cet étrange Québécois qui connaissait la vie politique française beaucoup mieux que n'importe quel français. Et donc il m'a semblé qu'il y avait une histoire à raconter et que les gens qui suivent Mathieu, très nombreux dans ses interventions médiatiques, pourraient être très intéressés de savoir qui il était, d'où il venait et d'où venait cet étrange accent.
C'est vous qui avez un accent.
Il y a un passage où un Québécois dit « Nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler.
» Ça, c'est une formule exceptionnelle. C'est-à-dire que je pense que c'est André Major, si je ne me trompe pas, j'espère. Non, André Bello. Et donc, c'est à propos du rapport au français. Parce qu'en Amérique du Nord, effectivement, on pourrait se dire « Mais qu'est-ce qu'on attend pour s'aligner sur l'Empire ? Qu'est-ce qu'on attend pour parler anglais comme tout le monde ?» Et certains Québécois, il faut le dire, portent l'identité québécoise comme un fardeau. Ils ont l'impression d'être les victimes de la périphérie continentale. Ils aimeraient être des Américains comme tout le monde, sans se rendre compte que c'est quand même infiniment plus glorieux d'être à Québec ou à Montréal qu'à Cincinnati ou à Pittsburgh. Premier élément. Et ensuite, je pense qu'on oublie une chose, c'est que le français n'est pas quelque chose qui nous est extérieur. C'est pas, tiens, la langue la plus utile dans les circonstances. C'est l'expression profonde de notre être. Ça fait 400 ans, globalement, que sur cette terre d'Amérique, on se bat pour continuer à vivre en français, parce que c'est à travers ça qu'on respire, qu'on aime, qu'on exprime notre rapport au monde. Donc, dès lors, oui, on a besoin du français pour parler. Et je note d'ailleurs qu'un peuple qui perd sa langue, qui perd sa culture, ça peut durer une génération, deux générations, trois générations, quatre générations, et pendant ce temps-là, c'est pas beau. C'est assez triste, en fait, un peuple qui perd sa langue. Il y a une formule, qu'on dit quelquefois pour se moquer des Acadiens, que j'aime beaucoup par ailleurs, donc je veux pas les insulter, mais c'est un enfant qui dit « Maman, j'ai vu un airplane dans le ciel. » On dit « Avion, Jérémy. »« Ah, maman, j'avions vu un airplane dans le ciel. » Il y a quelque chose. Et c'est des histoires de ces Canadiens français de l'ouest du Canada qui ont été partout assimilés, anglicisés, et qui, par exemple, c'est raconté par Fernand Dumont, un de nos grands sociologues, un Canadien français qui va à une messe en français à Winnipeg, ou je pense que c'est à Boniface, mais il parle pas français, mais il va à la messe en français. Et là, on dit « Pourquoi vous allez là ?»« Because we're French Canadians !» Il y a une infinie tristesse là-dedans.
Vous évoquiez Raymond Aron, Laurent Dandrieu, donc, que vous avez lu à Sciences Po avec un peu de malchance.
Oui, voilà. Mais que j'ai avec beaucoup de bonheur, surtout.
Voilà. Et oui, ça a dû vous délasser de l'horreur que vous étiez en train de vivre. Vous, c'est votre père qui vous offre un livre de Raymond Aron. Ouais, jeune, en plus, à 15 ans.
À 15 ans, pour mon anniversaire.
On sent un peu l'éducation à la dure, quand même.
Ah, non, mais du tout, j'étais très heureux. Parce que fondamentalement, l'idée que j'avais dans la vie, c'est de ressembler à mon père le plus possible. Je trouvais que c'était un bon objectif de vie. Et le fait est qu'il m'offre, donc, il y avait une très belle bibliothèque à la maison, et il m'offre les mémoires d'Aron, que je lis. Moi, je dirais pas que j'ai tout compris sur le coup, on s'entend. Mais je lis avec plaisir, et ensuite, pendant des années, je lisais chaque été les mémoires d'Aron pour une raison simple. J'ai une prédisposition lyrique et romantique en politique. C'est-à-dire, je m'emporte. Je sais que j'ai intellectuellement tort. Je sais qu'en dernière instance, tout cela est fausse promesse et vanité. N'empêche que j'ai la trip Philippe Séguin. J'aime les discours qui nous emportent. J'aime avoir l'impression que je plante le drapeau qui fait l'indépendance dans un grand moment absolument euphorique. Et Raymond Aron, c'était ma chambre de décompression idéologique chaque été, où je me rappelais, pour reprendre sa formule, qu'il faut écrire la politique non pas sur le mode poétique, mais en prose.
Et donc, voilà, ça vous permettait d'écrire en prose. Vous commencez à écrire assez jeune, vous commencez à publier. Et d'ailleurs, vous commencez par un ouvrage qui est presque autobiographique.
Ah bon ?
Enfin, j'avais l'impression.
Vous pouvez me dire ça ?
C'est un chien.
Non, c'est l'épilogue de... où vous faites votre philosophie politique par le biais de votre histoire familiale.
Mon conservatisme, oui, voilà.
Excusez-moi.
Connaissance inexacte des œuvres complètes. c'est le dernier chapitre de fin de cycle. Dans mon premier bouquin, c'est La dénationalisation tranquille, que je fais, qui paraît en 2007, et qui a un beau succès parce qu'il trouve un beau contexte. C'est-à-dire, les indépendantistes se décomposent, ils viennent de comprendre que sacrifier l'identité, c'est pas une bonne idée. Et là, moi, puisque je m'obstinais depuis des années comme jeune militant indépendantiste à expliquer que c'est une mauvaise idée de sacrifier l'identité, c'est la rencontre entre un parcours militant, un parcours intellectuel et des circonstances qui pouvaient accueillir le livre. L'autre, c'est en 2012, c'est fin de cycle, et ça, c'est à ce moment-là, l'indépendantiste que je suis se dit l'indépendance a échoué. Elle est nécessaire, mais elle n'arrive pas pour l'instant, elle n'arrivera probablement pas bientôt. Que faire? Donc là, je cherche à comprendre pourquoi l'indépendance du Québec a échoué, et à travers cela, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à ceux qui m'ont transmis cette passion du Québec, notamment mon paternel.
Voilà, donc 2007, c'est il y a quasiment 20 ans, et donc c'est votre premier livre.
Ouais, c'est en septembre 2007, c'est mon premier bouquin. En vrai, ça, il y a eu fin de cycle en 2012, exercice politique en 2013, puis ensuite il y en a un par an, deux ans environ.
Oui, vous êtes prolifique. Les deux Occidents, 2025, le totalitarisme en Goulag, 2023, la révolution racialiste, 2021. Voilà, 2019, l'Empire du politiquement correct. Tous les deux ans, il y a un livre. Voilà, donc dans l'année prochaine, normalement, nous avons un nouveau Mathieu Bock-Côté.
C'est tout à fait possible, voilà. On l'a proposé.
et ici, c'est le livre interstitiel. Vous avez prononcé le mot militant. Laurent Dandrieux, ce militantisme, c'est aussi quelque chose que vous partagez en commun. Je veux dire, quand on décide d'écrire dans Valeurs Actuelles, quand on décide d'être le seul critique cinématographique de droite ou presque, qui a l'honneur de ne pas être invité, parce que voilà, il ne faut pas que Valeurs Actuelles parle du beau, du bon et du bien. Voilà, vous n'êtes pas juste deux intellectuels avec une œuvre sur l'Église et l'immigration ou une œuvre sur le wokisme. Il y a aussi l'idée qu'il faut s'engager, banqueter et combattre.
Je crois qu'effectivement, c'est un de nos points communs, c'est que pour nous, la vie intellectuelle n'est pas une chose abstraite, c'est un combat intellectuel, c'est un combat des idées, où on essaye effectivement le plus possible de rester objectif, puisque le but ultime, c'est de s'approcher de la vérité, mais c'est aussi de faire progresser les idées en lesquelles on croit, et de faire advenir une société qui se rapproche le plus possible de nos idéaux de bien commun. Donc effectivement, il y a un côté très engagé dans la pensée politique et les œuvres de Mathieu, et je pense aussi dans mes livres, même s'ils sont sur des sujets souvent plus culturels, oui.
Si je peux me permettre, je vais me souvenir d'une conversation avec Laurent avant qu'il écrive son premier livre sur l'immigration, parce qu'il écrivait de très beaux livres sur la culture et ainsi de suite, que je trouvais absolument essentiels. Mais à un moment donné, il me répond et il me dit que quelque chose comme oui, c'est très bien de garder le trésor de la cité, mais quand on a l'impression que la cité est assiégée, ne serait-il pas nécessaire d'aller sur les remparts se battre aussi? Et ça, donc, dans ses livres, je pense qu'il y a une étape qui est importante, c'est le jour où il a décidé, donc au-delà de son rôle de critique culturelle, d'aller au cœur de l'espace public pour défendre les idées qui étaient les siennes, donc soit sur l'immigration soit, et l'Église, soit le deuxième dans le rapport au cosmopolitisme.
Ouais, effectivement. Marie d'Armagnac.
J'ai une question, mais pour l'un et l'autre... Vous expliquez tous les deux, à travers les questions et les réponses, que le conservatisme est en fait un exercice de gratitude. C'est une façon, vous expliquez que c'est une façon d'être au monde, c'est une forme d'éthos. Est-ce que vous pouvez...
Oui, je pense que fondamentalement, c'est la formule que j'emprunte à Finkielkraut, mais on pourrait l'emprunter à d'autres aussi, c'est-à-dire nous naissons dans un monde qui nous précède et qui nous survivra. Dès lors, l'essentiel, c'est le monde qui nous a été laissé, à moins que ce soit la catastrophe, hein, c'est toujours possible. Mais globalement, c'est un monde qui a rendu possible notre existence, il faut la recevoir à la manière d'un don, d'un legs, d'une chance immense que d'y naître, et de poursuivre sans pour autant le reproduire, évidemment, sur le mode d'une forme de traditionnalisme qui serait stérile, selon on reproduit tout ce qui a été parce que c'est ainsi. Bon. Et ensuite, on a cette idée qu'on veut que le pays qu'on laissera à ceux qui viendront après nous, on voudrait qu'il ressemble un peu à ce qu'on a aimé. Donc, il y a cette idée d'un monde reconnaissable, d'un monde qui mérite d'être aimé, d'un monde qui mérite d'être poursuivi, et qui, ne serait-ce qu'on se tourne vers hier, et on a de 1000 inspirations qui nous viennent de ceux qui ont mené des combats auparavant. On parlait de Chesterton au tout début. Je pense qu'il dit à un moment donné dans un de ses livres, tous les grands combats sont nés d'une même, de même point de départ, le regard vers le passé. Il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Et je pense donc qu'il s'agit d'assurer une forme de continuité, tout en sachant que de temps en temps, l'inattendu surgit dans l'histoire, le neuf surgit dans l'histoire. Et c'est pas une catastrophe nécessairement.
Et à un moment, vous avez écrit une chronique sur le wokisme de droite. Vous parlez d'ingénierie identitaire. Est-ce que c'est un peu la même chose? Vous entendez un peu le même genre d'écueil qu'il faudrait inviter?
Alors, l'ingénierie, je ne suis pas certain que c'est la même chose. Je laisserai Laurent préciser sur le wokisme de droite, parce que j'ai
pas... Ouais. Alors, d'abord, moi, je voudrais répondre à la précédente question, puisque pour moi, je pense que ce qui fait le cœur de mon engagement, c'est le concept de civilisation. C'est l'idée que la civilisation est une construction extrêmement lente, au fil des générations, d'accumulation de savoir, de trésors, de sagesse. C'est un terreau extrêmement dense, riche, mais aussi extrêmement fragile, et que donc toute notre mission sur Terre et finalement de préserver ce trésor et de faire que si au moins on ne lui ajoute pas quelque chose d'absolument splendide, au moins de ne pas le laisser se dégrader. Pour moi, c'est vraiment le concept essentiel. Sur le wokisme de droite, ce que je voulais dire, moi, c'est que je trouve qu'on vit des temps absolument tristement binaires et qu'on a tendance à reproduire exactement ce qu'on combat. Et je trouve que c'est très net aujourd'hui avec le wokisme, c'est-à-dire que par réaction au wokisme, il y a à droite tout un tas de gens qui voudraient, de la même façon, annuler les gens qui ne leur plaisent pas, empêcher de parler ceux qui ne leur plaisent pas, empêcher des conférences et devenir en fait des espèces de clones des wokistes de gauche. Et
c'est très éloigné du conservatisme.
C'est
en fait
l'exact contraire de ce que nous devons être, ne serait-ce que parce que nous n'avons pas peur du débat, nous croyons en la vérité, nous croyons en l'élaboration, la recherche progressive de la vérité par le débat, nous croyons en la liberté, nous croyons en la culture, nous croyons en l'histoire, et donc tout ça devrait nous empêcher d'être des wokistes de droite, mais c'est effectivement beaucoup plus facile de vociférer, de dire « lui, il n'a pas le droit à la parole, je vous interdis de dire ça, et brûlons le spectacle de Duchemol qui ne nous a pas plu ».
C'est une espèce d'hygiène mentale qu'il faut avoir, mais qui est d'autant plus difficile qu'on vit des le débat est appauvri à partir du moment où il s'est radicalisé et polarisé.
Oui, le débat se radicalise, mais il y a aussi le fait que quand on a le nez dans le guidon du combat, on a tendance à se définir par rapport à son adversaire, à oublier qui on est d'une part et pourquoi on se bat. D'où d'ailleurs l'importance de la culture, parce que c'est vrai que moi j'ai parfois des doutes, je me dis écrire des livres sur Frangelico alors que les barbares sont en bas des murailles, c'est peut-être renouveler l'erreur des débats de byzantins sur le sexe des anges, mais en réalité c'est vraiment essentiel, parce que si on ne sait pas pourquoi on se bat, pour quelle valeur, pour quelle culture on se bat, et bien il est évident que le combat devient absolument inutile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a dans le camp national, malheureusement, je pense, trop de gens qui se battent un peu pour se battre parce qu'ils n'aiment pas les gauchistes, mais qui ne savent pas vraiment ce qu'ils défendent, quelles valeurs ils défendent.
Alors, j'en profite justement pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent que vous êtes sur Radio Courtoisie, la radio qui sait exactement pourquoi elle se bat, et y compris pour parler de Frangelico, du sexe des anges, des Québécois brillants ou de n'importe quel autre sujet. Voilà, il y a des milliers d'heures d'émissions. Vous êtes d'ailleurs 1 500 000 à nous écouter chaque semaine. Vous êtes un peu moins de 20 000 à nous financer. Si jamais vous avez l'impression que ça vaut le coup de continuer et de permettre de discuter brillamment de choses absolument passionnantes, n'hésitez pas, 1 euro, 2 euros, allez, 5 euros par an, et bienvenue au club, et ça nous permettra de continuer. Mathieu Bock-Côté, à un moment donné, parmi toutes les choses brillantes que vous fait dire Laurent Dandrieux, vous parlez de l'obsession des modernes qui est la rationalisation intégrale du réel. Ce qu'ils ne peuvent pas tolérer, c'est tout ce qui se déborde, tout ce qui est obscur, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre, tout ce qui ne rentre pas dans la doctrine. Et ça, c'est évidemment quelque chose auquel je suis très sensible. Voilà, on sent que le réel résiste et que ça fait partie des leviers sur lesquels vous vous appuyez pour dire non, cette espèce de cauchemar dans lequel les progressistes veulent nous jeter n'a pas déjà gagné.
Oui, non, mais il suffit de penser à ceux qui ont tenu tête au communisme en Europe de l'Est au XXe siècle. Ils s'appuyaient globalement, c'est la figure de Solzhenitsyn, mais en Europe de l'Est aussi, au-delà de l'URSS en Pologne, ça, à la fois sur une identité nationale forte et sur le catholicisme, donc sur l'Église et sur l'identité. D'ailleurs, les deux étaient emboîtés très souvent. Je pense que le drame de la philosophie politique moderne, mais ça, je le disais, quand j'enseignais, c'était un thème sur lequel je revenais souvent, c'est le danger du contractualisme intégral. Donc le contractualisme, c'est l'hypothèse de base des philosophies politiques modernes. Les hommes doivent consentir à l'ordre politique dans lequel ils évoluent. Ok, d'accord, pour l'instant, ça va. Mais assez rapidement, on bascule d'une forme de contractualisme intégral et on oublie cette question, moi qui m'obsédait quand j'étais plus jeune, j'embêtais mes profs avec ça. Je dis oui, mais on a le contrat social, on imagine les êtres humains se rassembler pour le contrat social. Moi je dis mais qui sont les contractants? C'est-à-dire dans quelle langue vont-ils parler? Donc la culture est antérieure au lien civique, l'anthropologie est antérieure au lien politique, et dès lors c'était ma grande obsession. C'est-à-dire l'arrière-fond qui n'est pas intégralement rationalisable, qui n'est pas intégralement contractualisable. Et aujourd'hui, ça fait le lien avec votre question sur l'ingénierie identitaire, on a cette volonté de rationaliser intégralement le monde. On a une volonté d'avoir un code d'éthique pour tout. On ne tolère plus le flou, on ne tolère plus le gris, on ne tolère plus ce qui déborde. On rêve d'une existence absolument rationalisée, autrement dit absolument asséchée.
Alors, un auditeur de Radio Courtoisie nous écrit « Figurez-vous qu'à vos débuts sur Radio Courtoisie, que j'écoute depuis 1990 au moins, j'avais l'impression que Mathieu était noir à l'instar de l'humoriste Cavano. Ce n'était pas un défaut, loin de là, car j'avais été extrêmement intéressé par ses raisonnements. Bizarrement, j'ai eu la même réaction avec le nordiste Jean-Phi Jensen. Ce n'est qu'en le voyant sur CNews que je me suis rendu compte de mon erreur. » Voilà.
Son erreur, en fait, c'est ça. Il parle d'Anthony Cavana. Or, Anthony Cavana est un humoriste québécois qui a aussi fait carrière en France et qui a l'accent québécois lorsqu'il parle. Donc, il se trompait entre l'accent et la couleur de peau. Mais Anthony Cavana est un humoriste absolument remarquable. Vous savez, en ces matières, moi, j'ai écrit un bouquin en 2021, La Révolution racialiste, qui était une critique de cette espèce d'obsession raciale qui caractérise les temps présents. Et autant je pense qu'il est légitime de départager les hommes selon la culture, l'histoire, la mémoire, l'appartenance politique, autant l'obsession raciale qui caractérise notre époque me semble contraire aux faits, contraire au réel et contraire à la véritable émancipation humaine. J'ajouterai une chose, les Français, les Irlandais ne sont pas des Anglais, pourtant ils sont blancs tous les deux. Les Écossais ne sont pas des Anglais, ils sont blancs aussi. Les Québécois, les Canadiens anglais, historiquement, étaient blancs les deux. C'est pas le même peuple. Donc manifestement, le critère de différenciation, ce n'est pas l'obsession raciale, c'est la culture qui est le marqueur de l'identité. Et ce qui fait qu'Anthony Cavana est un excellent Québécois.
Tout à fait, et que sinon, on aurait plus de points communs avec les Texans qu'avec Anthony Cavana. Et personnellement, je préfère beaucoup avoir des points communs avec Anthony Cavana plutôt qu'avec un Texan. Vous disiez, Laurent Dandrieux, qu'il y a une obsession du racisme avec une extension continue, d'ailleurs, de ce domaine du racisme, puisque maintenant, les mathématiques, le sparadrap et les pâtes au carbonara sont suspectes de racialisme. Et vous lui répondez, Mathieu Bocoté, sachant que le racisme est considéré comme la pire chose sur Terre et que celui qui contrôle la définition du mot racisme peut contrôler tout le périmètre du pensable et du dicible, on éteindra sans cesse la définition du racisme. On oublie au passage que les gens qui ont résisté historiquement au nazisme ne le faisaient pas simplement au nom d'une philosophie de pré-68ard en culotte courte, ils le faisaient au nom d'une conception tout à fait dense, organique de la nation, et vous recitez évidemment l'Europe de l'Est. Et il y a, non pas un impensé, parce que vous en parlez tranquillement, mais il y a un catholicisme qui fait partie en fait de votre pensée, qui fait partie de la manière dont vous êtes au monde.
Ah, j'ai souvent dit, le catholicisme m'a toujours obsédé, ensuite j'avais un rapport trouble avec lui, c'est-à-dire plus je m'en rapprochais, et plus j'avais envie de m'en éloigner, mais quand je m'en éloignais trop, je m'en rapprochais. Mais je pourrais dire que philosophiquement, certains auteurs, on peut penser à Gustave Thibon par exemple, mais pas que, le catholicisme m'habitait intellectuellement à la manière d'une tentation, et ensuite ce sont les circonstances de l'existence qui font qu'on s'en rapproche et qu'on fait le pas définitif à un moment donné. Mais je pense que par ailleurs, penser le monde occidental à l'extérieur de cette matrice catholique consiste à penser un monde occidental qui n'existe pas.
Cher Richard.
Cher Lucien,
j'écoutais avec beaucoup d'intérêt Laurent Dandrieux parler du wokisme de droite. D'ailleurs, historien des idées, lecteur de Raymond Aron, connaît le mouvement Sinistrogyre. Il est vrai que ceux qui à droite ont développé des tendances totalitaires au XXe siècle étaient souvent des gens qui venaient de la gauche et en reprenaient parfois certains usages. Et c'est peut-être ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, des gens qui sont moins de droite que à droite parce qu'ils ont été repoussés justement dans ce champ et qui ont gardé certains usages, celle de faire des listes noires ou de faire de la cancel culture. J'avais une question plus spécifique à vous poser sur le Québec. Vous parlez de l'identité québécoise et du souverainisme comme une sorte de combat perdu, ou un combat lointain, ou un combat égaré. Les Français ne connaissent pas forcément la culture québécoise. Quelques groupes de musique, un ou deux plats, pas de littérature.
Anthony
Cavana. Ils en ont une image souvent assez mélancolique, assez larmoyante. Et je pense que les Québécois sont pour beaucoup d'anciens émigrants d'Europe, de l'ouest de la France. Donc des gens marqués par la culture celte, par l'identité celte, bretonne, quelque chose d'un peu sacrificiel, imaginatif. Mathieu Bocoté, vous étiez souverainiste au Québec, vous battez pour l'identité française en France. N'aimez-vous pas simplement les combats perdus ?
Premièrement, l'indépendance du Québec n'est pas un combat perdu. Ça, je vous rassure, il y aura des élections en automne, le 5 octobre 2026. Et si on suit au sondage en ce moment, les indépendantistes sont premiers dans les sondages et ont de bonnes chances de l'emporter. Et dès lors, d'être en position pour tenir un référendum sur l'indépendance du Québec d'ici 2030 environ. Donc ça, je pense pas que c'est un combat perdu. Le fait d'avoir perdu une fois, deux fois, ne veut pas dire qu'on perdra la troisième. Ça, j'en suis convaincu. Je pense même sincèrement qu'on va gagner. Premier élément. Deuxième élément, je crois que la culture québécoise est une culture, on pourrait dire mélancolique. Il y a une forme de vraie joie de vivre au Québec, hein. C'est-à-dire quelquefois un peu simple peut-être, mais il y a une vraie joie de vivre. On n'est pas le peuple le plus mélancolique sur Terre, bien que aujourd'hui, un des groupes de musique qui a le plus grand succès en France ces dernières années, les Cowboys Fringants, est un groupe fondamentalement mélancolique, mais il arrive dans une période mélancolique et triste de notre histoire. Donc ça, je peux le comprendre, il arrive après la défaite. Pour le reste, le combat pour l'identité française ne me semble pas un combat perdu, mais d'aucune manière, c'est un combat qu'il faut gagner. On n'est pas encore arrivé au moment du trop tard. On est rendu au moment du bientôt il sera trop tard, vraiment bientôt il sera trop tard, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est perdu et que nous sommes désormais simplement les gardiens de ruines, fiers de nos ruines. Je pense qu'en ces matières, la bataille
peut-être gagner. Vous disiez, aimer le geste bravache, séguéniste. Le discours de 92 sur la souveraineté était autant un début qu'une fin, finalement.
Ben, c'était pas perdu d'avance. C'est-à-dire 92, on passe à quelques dizaines de milliers de votes de l'emporter en France. Donc, ensuite, après coup, on a l'impression que tout est inéluctable. Mais ça, c'est ce que Raymond Aron appelait l'illusion rétrospective de la nécessité. Ça, je pense qu'on doit s'en tenir éloigné. Il faut se rappeler que chaque moment de l'histoire qui nous semble aujourd'hui, c'était fatal, inévitable, en fait, ceux qui ont mené ces batailles-là croyaient pouvoir les gagner souvent.
Sur la culture québécoise, il me semble qu'il y a un très bon exemple du type particulier de mélancolie québécoise. Ce sont les deux films de Denis Arcand, Le déclin de l'Empire américain et Les invasions barbares, qui sont certes des films assez pessimistes sur le déclin de l'intelligence, mais en même temps des films d'une drôlerie incroyable et d'un humour absolument roboratif. Donc c'est une mélancolie, si on veut, mais tempérée par une très très solide joie de vivre.
On peut lire le titre de votre ouvrage.
Voilà, le pessimisme joyeux. Je pense que
nous ne sommes pas les Portugais. C'est-à-dire du tout le respect du monde pour la soudade, mais c'est pas notre tempérament. Le tempérament québécois, c'est davantage la gigue, le rigodon et l'espèce de chanson tout heureux.
Je voyais le Portugal comme le Québec de l'Europe, justement.
Ah mais non, Dieu du ciel.
Je sais pas si c'est un compliment.
C'est le côté atlantique, je crois.
Ça me semble surtout une inexactitude.
Ce qu'avait dit Michel Debré à propos de la France. La France ne veut pas devenir le Québec de l'Europe, justement, lors des débats.
Marie d'Armagnac, vous aviez une question.
À propos du... Pour revenir au christianisme...
Revenons à des trucs un peu sérieux.
Je vais vous donner une définition de votre anthropologie. Vous dites, l'homme est généralement médiocre, trop souvent monstrueux, il lui arrive d'être lumineux, mais il est surtout capable d'une petite bonté, pour peu que la civilisation l'y pousse, en incitant à refouler sa mesquinerie naturelle, en l'incitant de mille manières à développer le réflexe de la coopération sociale. On se demande si vous venez pas de décrire le génie social et politique du christianisme, en fait.
Je crois que fondamentalement, le christianisme, c'est un processus de civilisation. Qu'on soit croyant ou non, à l'échelle de l'histoire, quand le christianisme se mêle d'une société, elle s'en tire mieux quelques années, quelques décennies, quelques siècles plus tard. Donc ça, je crois que... Et le principe de base, et ça... Peu importe la manière dont on le nomme, c'est le péché originel. C'est cette idée que fondamentalement, l'homme porte en lui la possibilité du pire, mais le pire m'inquiète moins que la médiocrité ordinaire des jours. Et de ce point de vue, à la médiocrité ordinaire des jours, on peut répondre par ce que j'appelle la petite bonté. C'est pas grand-chose, c'est simplement être capable, devant le réflexe naturellement mesquin qu'on peut avoir en toutes circonstances parce que nous sommes des êtres frappés par la mesquinerie et d'une imperfection radicale, plutôt que la mesquinerie, le petit geste bon. Le petit, c'est pas grand-chose, mais quand il y en a des millions, des milliards, ça finit par faire une société plus agréable.
Je crois que le christianisme nous apprend aussi la vertu de la méfiance vis-à-vis de ses propres défaillances, de ses propres hubris, de ses propres failles, et qui nous apprend effectivement là, une forme de prudence et de tempérance politique.
Oui, je dis souvent d'ailleurs qu'il importe peu politiquement que l'homme croit en Dieu, l'essentiel est de savoir s'il se prend pour Dieu. Ça me semble beaucoup plus important. Et l'histoire du XXe siècle, en fait depuis la Révolution française, mais le XXe siècle surtout, c'est l'histoire d'un homme démiurge, l'histoire d'un homme qui s'est voulu non pas capable d'aménager le monde, mais qui a voulu le construire, le créer. Et ça, je pense que l'homme qui se veut créateur du monde, c'est l'homme démiurge.
Cette obsession prométhéenne de la construction d'un monde aboutit d'une manière totalement paradoxale, non pas à un peuple de surhommes absolument brillants, mais au contraire à ce que vous appelez l'homme administratif. Les sociétés qui sont les nôtres produisent à la chaîne un homme interchangeable, un homme où rien ne déborde, où rien n'est extravagant, où rien n'est vivant. C'est l'homme administratif.
Oui, mais je pense. C'est-à-dire que dès lors qu'on existe dans les catégories administratives autorisées et qu'on se définit à partir d'elles et qu'on n'a pas une révolte saine et naturelle devant tout bureaucrate qui s'approche de nous pour nous dire qui on est vraiment. La révolte spontanée contre le bureaucrate est l'autre nom de l'instinct de vie. Bon, ça, je pense que dans nos sociétés, on a une forme de conditionnement généralisé à l'acceptation du cadre qui est le nôtre et la crise sanitaire, sans y revenir trop longtemps. Ça témoignait d'une docilité exceptionnelle de nos sociétés, une prédisposition à la docilité qui m'a frappé. Et c'est pour ça que quand je suis venu en France pendant la pandémie, je m'en souviens, d'ailleurs ça c'était une espèce de moment de liberté, parce qu'ici, officiellement, vous aviez les mêmes règles que chez nous, mais dans les faits, vous ne les respectiez pas. J'ai un ami qui m'avait dit une phrase absolument merveilleuse, il m'a dit « les Français ont ce génie de reconnaître à leurs gouvernants le droit de passer toutes les lois qu'ils veulent, tout en se donnant le droit de n'en respecter aucune. » Et je me souviens, pendant la pandémie, donc ça faisait un an et demi en gros qu'on avait... On voit presque personne sauf en marchant, en faisant des balades à Montréal. Et là, j'arrive ici, je vais dîner chez Laurent. Formidable. Ensuite, j'ai des amis qui faisaient des restaurants clandestins. Des restaurants clandestins. C'était formidable. C'était la résistance un peu de frais, mais franchement, c'était pas désagréable.
C'était assez épatant. Il y a aussi, c'est vous, Laurent Dandrieu, qui nous apportez cette définition. Roger Scruton donne du conservateur et de l'excentricité une définition justement qui met les deux, qui est tout à fait aimable. La valorisation de l'excentricité et de l'indépendance comme signe d'une obéissance plus profonde que la simple conformité grégaire à un ordre bon parce que bénéfique pour la liberté. Voilà. Quand vous partez pour Portmeirion célébrer la série Le Prisonnier ou quand vous, Mathieu Boccoté, voilà, vous faites un éloge délirant du banquet avant de banqueter vous-même, on sent que le fait d'être effectivement administratif dans les clous, etc., n'a aucun intérêt parce que c'est refuser la vie que de se conformer juste au squelette administratif qu'on nous présente.
Alors, je pense qu'il faut avoir un esprit raisonnable et faire ce qu'on doit. C'est les périodes des impôts au Québec en ce moment. Il faut payer ses impôts. C'est désagréable. Il ne faut pas aimer payer ses impôts. Tous ceux qui prétendent aimer payer leurs impôts sont des menteurs. Bon, une fois que c'est dit, donc il faut aimer les. Il faut faire ce qu'on a à faire, mais ensuite, il ne faut surtout pas consentir à cette idée que l'existence tiendrait dans cette existence normée, réglée, étouffante et en dernière instance falsifiée.
C'est ça aussi qui est agréable chez Mathieu Boccoté, c'est qu'on a l'impression qu'il excède.
Il excède, et alors, malgré sa certaine corpulence, il est le contraire de ce que Ortega y Gasset appelait un homme masse, c'est-à-dire que c'est effectivement cet homme, dénué de toute singularité dans lequel la société dans laquelle nous vivons essaye de nous transformer tous les uns les autres. Et effectivement, c'est ce qui est très frappant dans la phrase de Cruton, c'est qu'on voit bien que c'est en obéissant à nos singularités, en les cultivant, en les développant, qu'on arrive à être fidèle à ce que notre civilisation a de plus profond dans ses valeurs et dans ses principes.
Les Québécois n'ont pas connu la grande lessiveuse jacobine, donc ont pu garder aussi leur accent, d'où cet atout télévisuel.
Sachez cela dit que dans les années 60, avec la télévision qui arrive au Québec, on avait plusieurs accents au Québec, et il y a une forme d'uniformisation de l'accent québécois à partir des années 60. Donc il y a, mais encore aujourd'hui, il y a l'accent de la Gaspésie, l'accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'accent de Québec, donc non, ça existe, mais ça existe beaucoup moins qu'auparavant. Ce qui est intéressant, cela dit, lorsqu'on regarde de vieilles vidéos de l'équivalent de l'INA, c'est donc je ne sais quel paysan qui ont réussi à enregistrer sa voix ou on le filmait qu'en 1938, eh bien, ça ressemble à l'accent de ma grand-mère. C'est assez touchant de voir comment, par ailleurs, le Québec avait conservé certaines des...
Dans quelle région?
Au Québec, vous voulez dire?
L'INA. Les paysans de quelle région?
Je pense que c'est dans le nord-ouest de la France, comme d'hab, mais d'où on vient, en fait. Et c'est assez frappant de voir l'espèce de parenté d'accent, comme si finalement, un même monde s'était poursuivi.
J'entends parfois, dans mon cher Cotentin, des accents qui me rappellent un peu l'accent du Québec. Ouais. C'est assez étonnant.
Lucien Rabouille, une dernière question.
Puisque vous
m'offrez 5 minutes, Mathieu.
Oui, je dois aller à CNews expliquer pourquoi j'ai raison.
Voilà. Voilà.
Puisque vous m'offrez cette incroyable grâce d'offrir une dernière question, vous parliez effectivement de cette attention que vous aviez aux petits gestes, notamment à la compassion. On dit que les Québécois sont culturellement et peut-être intellectuellement assez nord-américains. On sait qu'il y a un tropisme dans la droite anglo-saxonne qui n'est pas forcément continental, qui n'est pas forcément latin, pour cette idée de décence ordinaire, qui est un concept qui nous vient du monde anglo-saxon, notamment de la common decency, cette idée que la petite personne humaine a une valeur. On songe à Charles Dickens, on songe à tout ce tropisme littéraire qui arrive à mettre en scène et à sacraliser des petits gens de rien, des garagistes, des gens des cow-boys fringants, etc. Est-ce que vous diriez que ce n'est pas ce que vous apportez en France, dans le débat public, avec le livre de Laurent Dandrieu, cette petite inflexion qu'on peut avoir par rapport à nos grandes idées, nos grands plans gaulliens, nos grandes abstractions. C'est ce que vous dites qui était très beau, d'ailleurs très touchant, sur les petites choses, les petits gestes.
Alors ça, c'est un trait qui est présent au Québec, mais de ce point de vue, je ne suis pas le plus Québécois des Québécois, je crois. Mon tempérament me porte ailleurs. Moi, quand je vois une théorie, je m'y jette et je l'embrasse. Donc, j'ai... Mais cela dit, oui, il y a quand même... Au Québec, il y a une... Enfin... La culture québécoise tient entre deux formules. C'est d'un côté, il y a toujours bien les limites, puis de l'autre côté, il y a toujours moyen de moyenner, c'est-à-dire toujours moyen de s'entendre. Je pense que la culture québécoise est une culture assez égalitaire, c'est une culture sans véritable dimension aristocratique, sauf chez les Anglais qui nous ont conquis, donc on n'a pas vraiment envie... c'est des gens respectables humainement, mais c'est quand même des conquérants. Donc je les respecte. Mais cela dit, là, c'est pas la culture québécoise. La culture québécoise, c'est une culture assez égalitaire, une culture assez familiale, une culture qui est absolument touchante, c'est la mienne, mais qui a pas cette tentation aristocratique ou la tentation du grand geste. Et quand quelqu'un a arrive, je pense à Jacques Parizeau qui était un ancien premier ministre du Québec. Monsieur Parizeau, un homme absolument remarquable.
Le vote ethnique.
Pas d'abord ça, il a fait tout, ça c'est le petit moment triste de sa vie, mais il a fait des choses absolument essentielles. Et Parizeau, on lui reprochait, vous êtes pas un vrai Québécois, vous êtes presque un Européen. Et quelquefois, il y a cette tentation, chez les Québécois, soit dit en passant, qui vont en Europe, pendant longtemps, on les appelait les retours d'Europe. Donc ils allaient en Europe, ils revenaient au Québec, là ils trouvaient qu'on était trop petits, pas assez développés. Et là, il y avait cette idée qu'ils étaient inconsolables de leurs 6 mois passés à Paris, quelque part en 1953. Moi, je pense que de ce point de vue, il ne faut jamais regarder le Québec de haut. Ça fait 400 ans qu'on est là, ça fait 250 ans, 260 ans qu'on résiste. Dans quelques années, on va gagner. Il ne faut jamais regarder le Québec de haut, même si c'est pas une société parfaite.
On dit qu'ils voient les Français comme des snobs. Ce serait la dernière question. C'est ce qu'on dit.
C'est une réputation qui peut quelquefois vous...
Mais ça, c'est pas toujours absolument injustifié.
ça dépend. Globalement, c'est faux, mais ça, il peut arriver que ça soit vrai. Je me rappelle les premières fois où je venais à Paris régulièrement, je sais pas, au début, en 2007, les premières fois, 2009, ensuite, je viens assez souvent, me faire accueillir en anglais à cause de l'accent dans un café, il se pouvait que je le prenne mal. Mais à ce moment précis, j'avais une réaction qui n'était pas celle des petits gestes, mais de la grande indignation.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle évidemment qu'il faut absolument se procurer Mathieu Bock-Côté, Entretien avec Laurent Dandrieu, Le pessimiste joyeux. C'est un livre qui est aussi joyeux que son titre l'annonce et qui est en fait pas si pessimiste que ça, puisque non seulement vous avez raison, et merci d'aller le dire à CNews, mais en plus vous prouvez que vous avez raison, et c'est tout à fait agréable grâce aux questions de Laurent. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Merci.